Eh ouais, c'est précis, c'est France Inter, 18h. Bonsoir Fabienne Sintès.
Je remarque quand même qu'il y a eu un blanc avant les top à blanc. Ouais. Vous savez que ça m'angoisse.
Et pourtant, avec Rémi Sistiaguet à la technique, on y a cru, mais.
Et lui, on l'embrasse. Allez, Charline et les garçons, on se retrouve demain. Nous, c'est parti pour le 18-20 de France Inter. Ravi de vous retrouver. Bienvenue sur la planète et sa banlieue. Comme d'habitude, c'est le journal qui entame ce tour du monde. Bonsoir Amélie Perrier.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel de ce mardi commence avec la Catalogne.
Oui, les porte-drapeaux de la Catalogne indépendante au tribunal. L'Espagne juge 12 dirigeants accusés de sécession. Un procès événement. Nous irons à Madrid dans un instant.
Et nous aussi, nous serons en Espagne, Amélie. On essaiera de comprendre avec notre invité pourquoi ce procès secoue toute l'Espagne, s'il divise encore un peu plus le pays, et surtout dans quel sens politique est en train de tourner l'Espagne.
En France, dans le journal encore, un front républicain contre les violences subies par des élus, cible des gilets jaunes, aide d'honneur à l'Assemblée nationale pour tous les chefs de parti. La bataille des écoles à Marseille, la justice retoque le projet de Jean-Claude Gaudin de reconstruire des établissements avec un partenariat public-privé. Et des hommages à deux légendes du foot. D'abord, le mythique gardien de but britannique Gordon Banks est mort. Hommage aussi dans le journal à André Francis, disparu aujourd'hui, Monsieur Jazz sur nos antennes, fondateur de l'Académie du Jazz avec Jean Cocteau et premier président de l'Orchestre National de Jazz. Du soleil demain, le point météo à la fin de ce journal avec Élodie Calac.
Et sinon donc 18h15, beaucoup d'Espagne, mais précisément 19h20 avec le téléphone sonne et Stéphane Le Neuf qui prend la main ce soir comme à chaque session parlementaire. On parlera territoire, on parlera région, il y en a 300 des territoires et des régions en Europe. Beaucoup d'argent injecté par l'Europe, mais où va cet argent? Quels investissements nécessaires? Est-ce que c'est toute l'Europe qui oublie ses territoires? 01 45 24 7000. C'est donc l'un des procès les plus importants de l'histoire espagnole.
Les 12 dirigeants indépendantistes catalans comparaissent à Madrid. Ils doivent répondre de la tentative de sécession en octobre 2017. Le pouvoir catalan avait organisé alors un référendum d'autodétermination et proclamé ensuite une république catalane indépendante. Le procès doit durer environ 3 mois. En Espagne, c'est un événement retransmis en direct, suivi par plus de 600 journalistes, dont Marie-Hélène Ballesteros pour France Inter.
C'est dans un climat de tension qu'a démarré le procès. Il faut dire que la crispation et la radicalisation sont de plus en plus présentes dans le débat politique espagnol. Les partis de l'opposition ont adopté un ton de plus en plus agressif à l'égard du gouvernement Sanchez qu'ils accusent de céder au chantage des indépendantistes. Carlota en est convaincue, militante catalane du parti d'extrême droite Vox. Elle en veut au gouvernement central, mais surtout aux indépendantistes.
Ils ne respectent pas les lois espagnoles, la Constitution, les lois internationales. Les Catalans nous sommes menacés, insultés, écrasés. On se sent humiliés en Catalogne. Il y a des affrontements au sein des familles. On assiste à une profonde fracture sociale.
Du côté des indépendantistes, on campe également sur ses positions. Olivier Peter, l'un des avocats de Jordi Cuixart, l'ancien leader de l'entité souverainiste Òmnium Cultural, reste ferme et confiant.
On a toujours de l'espoir. On a de l'espoir parce qu'on a raison du point de vue du droit espagnol et du point de vue du droit international. Donc s'il y a une condamnation, on ira à Strasbourg et on a un grand espoir que Strasbourg mettra fin à cet arbitraire.
Le procès le plus attendu arrive en pleine tourmente politique et sociale. Un climat qui ne devrait pas s'apaiser dans les prochains mois. Madrid, Marie-Hélène Ballesteros, France Inter.
Le grand absent sur le banc des accusés, c'est l'ancien président de Catalogne, Carles Puigdemont, en exil en Belgique ce matin. Il a qualifié ce procès de mascarade.
Et on en reparle donc tout à l'heure dans Un jour dans le monde. Des politiques attaquées en France. Cette fois, les députés font front commun contre les violences dont ils font l'objet.
Image forte du président de l'Assemblée nationale cet après-midi, faisant son entrée dans l'hémicycle entouré des 8 patrons de groupes politiques, de Christian Jacob pour les Républicains à Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise. Plus de 80 permanences parlementaires et domiciles de députés ont été en effet visés par des dégradations, selon un recensement du ministère de l'Intérieur depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Jusqu'aux palissades du Palais Bourbon, des manifestants ont tenté de les enfoncer samedi dernier. Réponse donc aujourd'hui sans ambiguïté de l'ensemble des partis politiques, Élodie Forêt.
Oui, au son des tambours, l'unité affichée cet après-midi, le visage grave, les présidents entourent Richard Ferrand. Puis font irruption dans l'hémicycle où les députés, tous debout, les applaudissent. Richard Ferrand à la tribune salue l'initiative, condamnant un climat général délétère et des violences qui ne visent pas seulement les parlementaires.
Ces actes inacceptables portent atteinte à la République et à la démocratie, tout comme les actes de racisme et d'antisémitisme radicalement contraires aux valeurs de la République que nous ne tolérerons jamais.
Unité affichée mais qui a ses limites. À gauche, on s'agite quand le MoDem, Patrick Mignola, pointe du doigt les gilets jaunes.
Les défilés pacifiques ont laissé chaque samedi une place toujours plus grande à une horde qui a attaqué les institutions, pillé les villes. Où sont les maires célibataires, les salariés qui ne s'en sortent pas le samedi après-midi, au départ des manifestations, quand ils osent encore?
Monsieur Ruffin!
Puis ils disparaissent derrière les images des enragés, monsieur Ruffin!
Patrick Mignola qui interroge le Premier ministre. Que faire face à ces violences? Des sanctions, répond Édouard Philippe, mais au-delà.
Je voudrais appeler l'ensemble de notre pays à dire son indignation.
Une prière à l'unité au-delà des murs de cette assemblée.
Merci beaucoup Élodie Fauré. Dernière exaction en date, la fédération du PCF d'Isère a découvert des croix gammées et des sigles SS sur son local de Vienne. Les communistes appellent à un rassemblement républicain vendredi soir. Quant au ministère de Benjamin Griveaux, forcé par des gilets jaunes le 5 janvier dernier, 6 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue aujourd'hui. Et le chef du gouvernement, Édouard Philippe, annonce de son côté que la justice a prononcé près de 1800 condamnations depuis le début des manifestations. Plus de 1400 personnes sont en attente de jugement. Climat de violence et de haine. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lui, confirme la tendance avec une explosion des actes antisémites l'an dernier. 74% de plus en 2018. Hasard du calendrier, le Premier ministre, Édouard Philippe, s'apprête à décerner le prix Halimi en mémoire au jeune homme tué par le gang des barbares en 2006. Un arbre planté justement en mémoire d'Ilan Halimi à Sainte-Geneviève-des-Bois a été retrouvé scié hier. Les politiques et les valeurs républicaines bousculées aujourd'hui, mais les élus respectent-ils aussi de leur côté leur devoir d'exemplarité? Hervé Guémard, déjà épinglé quand il était ministre en 2005 pour son logement de fonction, est de nouveau mis en cause car il toucherait une double rémunération. Environ 4000 euros en tant que président du département de Savoie et près de 7600 euros nets comme haut fonctionnaire à Bercy. Alors est-ce légal? Est-ce moral? Nous avons posé la question à l'ancien député René Dosière, spécialiste des finances publiques.
Il n'y a pas de texte qui impose aux élus d'être vertueux. C'est un problème de comportement individuel. La rémunération et les avantages d'un président de conseil départemental ne sont quand même pas modestes, si vous voulez, hein, puisque c'est quand même une rémunération de 5 639 euros. Elle peut, pour un élu local qui peut cumuler certaines indemnités, aller jusqu'à 8 434 euros. Et puis, il y a des avantages matériels. On n'est plus à l'époque où les responsabilités locales n'étaient absolument pas rémunérées. Si on veut s'enrichir, on ne fait pas de politique, c'est clair.
René Dosière, aujourd'hui président de l'Observatoire de l'éthique publique, il répondait à Yael Gauz. Quand un élu local se voit retoquer ses manœuvres financières, c'est aussi Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille. Il vient de voir son projet de rénovation des écoles annulé par le tribunal administratif. Un projet de construction de 34 établissements via un partenariat public-privé, un PPP d'1 milliard d'euros. Le plan prévoyait la destruction et la reconstruction des écoles Payron, ces bâtiments avec des structures métalliques datant des années 60. L'opposition préférait une rénovation, une bataille des écoles très politique, Isabelle Dor.
Ce PPP, depuis son vote par le conseil municipal, fait l'objet d'un véritable bras de fer entre la mairie et un collectif citoyen soutenu par des élus socialistes et communistes. Pour eux, cette décision est un revers cinglant pour le maire de Marseille, Jean-Marc Coppola, conseiller municipal communiste.
C'est un désaveu et il paye là le fait de ne pas s'être occupé des écoles primaires depuis 1995.
C'est donc une victoire historique pour les opposants au maire, mais le collectif citoyen y voit surtout l'occasion de travailler avec lui pour le bien des élèves. Pierre-Marie Ganozzi, représentant le collectif.
On ne crée pas victoire, on dit maintenant on se retrousse les manches et on se met tous autour d'une table dans le but de faire en sorte qu'il y ait des vrais travaux qui soient réalisés.
Le collectif et les élus de l'opposition exhortent la mairie à ne pas faire appel afin de ne pas retarder la rénovation des écoles. La réponse d'Yves Morenne, chef de file des élus Les Républicains au conseil municipal.
C'est curieux de nous demander de ne pas faire appel pour ne pas retarder alors que ce sont eux qui ont multiplié les obstacles pour empêcher ce processus de démolition-reconstruction des Paillerons. Nous, en tout cas, on ne change pas d'avis.
La mairie envisage donc de faire appel. La bataille pour les écoles est loin d'être terminée. Marseille, Isabelle Dor, France Inter.
Le procès de la viande de cheval. Le parquet de Paris a requis 1 an de prison ferme et 2 avec sursis contre l'ancien directeur de l'entreprise Spanghero. Il était jugé avec 3 autres personnes pour escroquerie en bande organisée. Il est soupçonné d'avoir vendu de la viande de cheval en la faisant passer pour du bœuf en 2012 et en 2013 dans une entente frauduleuse avec un négociant néerlandais. Compte rendu d'audience avec Mathilde Lemaire.
Il y a, dit la procureure, le trader néerlandais polyglotte déjà condamné dans son pays et qui parcourt le monde franchissant toutes les lignes rouges. Et puis il y a le charismatique et autoritaire patron français de Spanghero. C'est ensemble, en bande organisée selon elle, qu'ils ont, je cite, torpillé la traçabilité et la confiance des consommateurs. Eux, ni tout depuis 3 semaines, beaucoup d'éléments pourtant les accusent. 538 tonnes de viande de cheval écoulées. Le fournisseur néerlandais ne pouvait ignorer que plus personne n'en consommant en France. Elle était forcément étiquetée différemment, falsifiée pour être vendue. Il y avait aussi son prix anormalement bas, l'absence de contrat écrit, tout était oral, les signaux ignorés des salariés de Spanghero qui sur la chaîne ont trouvé bien étrange cette viande de bœuf qui n'en était pas. Enfin, il y a les destructions de preuves par les deux prévenus français une fois l'enquête ouverte, les écoutes téléphoniques l'ont révélé. Ces hommes, dit la procureure, n'ont pas pris conscience de la gravité de leurs agissements et de leurs effets catastrophiques, des centaines de licenciements, une filière déstabilisée, en plus des peines de prison ferme, 1 an et 4 ans, elle réclame pour les deux principaux accusés une interdiction définitive de pratiquer en France toute activité professionnelle dans le secteur de la viande.
Mathilde Lemaire. Les Bouches-du-Rhône où les boues rouges font des ravages, ces rejets toxiques chargés d'arsenic et de cadmium déversés en Méditerranée à Gardanne. Des défenseurs de l'environnement sont venus déverser des boues rouges ce matin devant les portes du ministère de la Transition écologique à Paris. Des boues apportées en camion du sud de la France et prélevées ce week-end sur le site de l'usine Alteo.
Le rendez-vous foot de ce soir, c'est le match Manchester-PSG.
Vous n'avez pas manqué ça, effectivement. 8e de finale de la Ligue des Champions, Fabienne. Les Parisiens vont tenter de briser ce plafond de verre en battant les Mancuniens, mais le PSG va devoir se surpasser, privé de ses stars Neymar et Cavani, et plongé dans un stade chauffé à blanc, Old Trafford, le théâtre des rêves, comme on le surnomme, rêve ou cauchemar pour le PSG. Réponse à partir de 21h. Les Anglais qui ont perdu, peut-être, leur plus grand gardien. Gordon Banks est mort la nuit dernière, il avait 81 ans. Il a gardé les cages de l'équipe d'Angleterre, championne du monde en 1966. Il a signé également ce que beaucoup d'amoureux du ballon rond appellent l'arrêt du siècle, le 7 juillet 70, l'arrêt d'une balle frappée par le roi Pelé dans un réflexe spectaculaire. Les habitants des Midlands aujourd'hui lui rendent hommage, les Midlands où s'est rendu notre correspondant Antoine Gignoux.
Devant le stade de Stoke City, la statue de Gordon Banks, le bras levé avec un gigantesque sourire, est en train de disparaître sous les fleurs et les écharpes de supporters. Figé dans le bronze, le gardien le plus célèbre d'Angleterre, 73 sélections en équipe nationale, reste ici le symbole d'un football populaire et ouvrier, un football où, selon ses propres mots, on se faisait les bras en transportant du charbon et les muscles du haut du corps en mélangeant du béton. Un football aussi où malgré le talent, personne ne se prenait au sérieux. Je suis arrivé là, disait-il, un peu par hasard, élu 6 fois meilleur gardien de l'année, meilleur footballeur en 1972. Gordon Banks reste le symbole d'une Angleterre qui gagne, héros de la Coupe du Monde en 66. Il est surtout l'homme qui a tenu tête à Pelé, au sens propre du terme, 4 ans plus tard. Le plongeon du siècle pour dévier un ballon qui, après avoir rebondi sur le crâne du Brésilien, se dirige à pleine vitesse vers les filets. En 1972, au sommet de son art, il perd un œil dans un accident de voiture. Il part jouer aux États-Unis, devient malgré tout meilleur gardien du championnat et commente « Si on peut voir d'un seul côté dans la vie, c'est suffisant. » Londres, Antoine Gignoux, France Inter.
Et pour terminer, une autre légende du jazz, cette fois, vient de s'éteindre. André Francis est mort à l'âge de 93 ans. Il a fait aimer cette musique à des générations entières, à la radio, à la télé, à travers ses émissions Jazz sur scène ou encore Jazz vivant. Sa vocation, c'était donc d'organiser des concerts et de les présenter, comme ici, donc dans l'émission 3 styles, 3 époques. C'était en 1957 sur Paris Inter.
Nous avons aujourd'hui 2 orchestres de style Nouvelle-Orléans, des orchestres de Armand Gordon qui représentera le style Nouvelle-Orléans classique, l'orchestre de Maxime Story qui représentera le style Nouvelle-Orléans de tendance Western France, l'orchestre de Claude Bolling pour le style Middle Jazz et en fin de compte quelques grandes vedettes américaines pour le jazz moderne, c'est-à-dire Lucky Thompson, saxo-ténor, Kenny Clark, batterie, Martial Solal, piano, avec en supplément au programme un musicien qui est venu spécialement pour notre émission de l'étranger,
On sait que maintenant, il est une des plus grandes vedettes aux États-Unis.
C'est la voix d'André Francis.
Ouais, c'est délicieusement désuet, en fait.
1957, Paris Inter. André Francis qui a aussi créé l'Académie du Jazz avec Jean Cocteau en 55. Il sera le premier président de l'Orchestre National de Jazz en 1986.
Formidable, Amélie Perrier. Merci beaucoup. Vous revenez tout à l'heure dans Un jour dans le monde, Amélie.
Oui, sous les radars ce soir, le GPS norvégien Perle Nord, la Russie, est accusé. 2 degrés de moins dans les écoles belges. Grève massive également en Côte d'Ivoire. Toutes les écoles sont paralysées. Puis un opéra rapproche l'Italie et la Tunisie.
On verra ça ensemble donc autour de 18h37. Ce soir, nous sommes beaucoup en Espagne, en Catalogne. On essaiera de comprendre en quoi ce procès qui s'est ouvert, vous en parliez tout à l'heure, Amélie, parle d'une Espagne qui est en train peut-être de changer politiquement. Le téléphone sonne en deuxième heure. C'est l'ami Stéphane Leneuf qui s'y colle ce soir, comme à chaque session parlementaire à Strasbourg. Il parlera territoire, 300 régions et territoires en Europe. Comment l'Europe aide à les développer? Quel financement? Quels investissements? 01 45 24 7000.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
C'est bien que maintenant ce soit en lin. Élodie Calac, dégelé pour demain matin.
Voudra mieux préférer la laine pour demain matin, parce que ça sera frais, moins 4 degrés à Nevers, moins 3 à Reims, à Mulhouse, moins 2 à Agen et Grenoble, 0 à Lille, à Rennes, à Cognac ou à Marseille, et puis 5 degrés tout de même à Brest, à Cannes. L'après-midi, ça sera plus doux, avec 8 à 12 degrés au nord et 10 à 16 au sud.
Mais un ciel quand même souvent bleu.
Oui, le soleil s'imposera quasiment partout. Quelques bémols tout de même de la Haute-Normandie vers la Lorraine, le bassin parisien, le centre, le Lyonnais. Il faudra se débarrasser des nuages bas et des brouillards matinaux, mais le soleil reviendra. Quelques brouillards ou quelques nuages bas également vers le sud de la Bretagne, les vallées du sud-ouest et du massif central. Sur le Var, là, le vent d'est apportera son lot de nuages pour la journée. On les retrouvera vers le Languedoc-Roussillon l'après-midi, et puis le vent d'automne se fera sentir jusqu'en région toulousaine.
Élodie Calac de Météo France. Merci Élodie, à tout à l'heure après 19h.